Lorsque toutes les parties et tous les membres de l'animal mortel eurent été réunis à un tout, il se trouva que cet animal devait nécessairement vivre dans le feu et dans l'air. Ainsi, fondu et vidé par eux, il dépérissait, quand les dieux imaginèrent pour lui un réconfort. Mêlant à d'autres formes et à d'autres sens une substance parente de la substance humaine, ils donnèrent ainsi naissance à une autre sorte d'animaux. Ce sont les arbres, les plantes et les graines, aujourd'hui domestiquées et éduquées par la culture, qui se sont apprivoisées avec nous. Auparavant, il n'y avait que les espèces sauvages qui sont plus anciennes que les espaces cultivés. Tout ce qui participe à la vie mérite fort justement le nom d'animal. Et ce dont nous parlons en ce moment participe de la troisième espèce d'âme, celle dont nous avons marqué la place entre le diaphragme et le nombril, qui n'a aucune part à l'opinion, au raisonnement, à l'intelligence, mais seulement à la sensation agréable et désagréable ainsi qu'aux appétits. En effet, le végétal est toujours passif, et sa formation ne lui a pas permis, en tournant lui-même et sur lui-même, en repoussant le mouvement extérieur et usant seulement du sien propre, de raisonner sur rien de ce qui le concerne et d'en discerner la nature. Il vit donc à la manière d'un animal, mais il est fixé au sol, immobile et enraciné, parce qu'il est privé du pouvoir de se mouvoir par lui-même. Quand nos supérieurs eurent planté toutes ces espèces pour nous servir de nourriture à nous, leurs sujets, ils creusèrent des canaux au travers de notre corps même, comme on fait des conduits dans les jardins, afin qu'il fût arrosé comme par le cours d'un ruisseau. Tout d'abord, sous la jointure de la peau et de la chair, ils creusèrent des canaux cachés deux veines dorsales, parce que le corps se trouvait double, avec un côté droit et un côté gauche. Puis, ils les firent descendre le long de l'épine dorsale, gardant entre elles la moelle génératrice, afin qu'elle fût aussi vigoureuse que possible, et que l'écoulement, suivant une pente descendante, puisse se faire aisément de là aux autres parties et rendre l'irrigation uniforme. Après cela, ils partagèrent les veines dans la région de la tête, les entrelacèrent et les firent passer au travers les unes les autres dans des directions opposées, inclinant celles qui venaient de la droite vers la gauche du corps et celles qui venaient de la gauche vers la droite, afin qu'elles puissent contribuer avec la peau à lier la tête au corps. Car il n'y avait pas de nerfs qui fissent le tour de la tête à son sommet, et en outre, afin que les perceptions venant soit de l'un soit de l'autre côté puissent être révélées à tout le corps.